Alors, je ne sais pas, Marie-France, si tu étais à l'écoute un petit peu plus tôt, mais j'ai fait comme plus qu'une montée de lait, j'ai explosé comme un vieux canon de l'histoire qui nous a été racontée au Grand Prix par nos deux collègues, Maxime Sarrazin, Philippe Lagu. Et écoute, Maxime veut poser une question en français à un pilote français. Oui. Et il se fait dire de poser, à Montréal, il se fait dire de poser la question en anglais par une préposée là, de l'écurie Red Bull.
Ça fait dur un peu.
Hein? Mais ça que ça fait dur.
On parle beaucoup de la visibilité que gagne Montréal. Et si on veut justement montrer notre plus beau visage, ben notre plus beau visage, c'est notre différence. C'est le côté francophone. C'est assez insultant.
C'est assez insultant. Quand le grand Ayrton Senna, avant sa mort, il faisait un petit rassemblement. Il parlait en portugais aux journalistes brésiliens qui étaient derrière lui. Quand les Finlandais suivent, les pilotes finlandais, ils parlent en finnois. Même chose pour les autres nationalités.
Ben oui.
Et la fille lui dit comme ça de pas poser de questions en français à un pilote français, Gasly. Ah,
c'est vraiment c'est colonisé.
Non, non, faut que ça soit réglé. C'est-à-dire qu'il faut que la direction du Grand Prix soit au courant de ça.
Ouais.
Il faut que les autorités de la Formule 1 rappellent à l'ordre cette écurie Red Bull et sa porte-parole.
Ah oui, tout à fait. Ben voilà un autre bémol qui vient à jeter sur cette histoire de Formule 1. Parce que oui, c'est vrai, c'est beau, c'est le fun, c'est le party. Il y a de la fébrilité, du beau monde, du glamour. Une ville de classe internationale. Ben admettons qu'elle ne parle pas français. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle une ville de classe internationale. Mais faudrait pas virer sur le top à en perdre tout sens commun non plus. Je vais te faire deux ou trois mise en garde ou des bémols à méditer entre deux selfies avec des coupes de mousseux hors de prix sur la rue Crescent. Parlons d'abord des retombées économiques phénoménales de la Formule 1. Tu sais, longtemps, Paul, ça a été basé sur des approximations. On parlait de 71 millions de retombées par année, voire de 89 millions. On disait que c'était incontestable parce que c'était incontesté. Puis, depuis quelques années, depuis 2016, en fait, il y a des économistes qui ont mis leur nez là-dedans et ils arrivent et ça fait vraiment consensus maintenant à 42 millions de dollars de retombées. C'est quand même pas rien, mais ce n'est pas 71. Et juste pour comparaison, le festival de jazz, lui, produit 48,5 millions de retombées, plus que la Formule 1. Alors évidemment, il y a visibilité, c'est une vitrine pour Montréal parce que c'est télédiffusé à travers le monde, mais c'est pas nécessairement les retombées qu'on avait vantées. La culture, donc, génère à travers le jazz plus de revenus. Quand on regarde les recettes fiscales du jazz, c'est 10,3 millions, la Formule 1, 8,1. Et quand on parle de subventions gouvernementales aux différents événements, pour le jazz, c'est 5 millions de subventions, pour la Formule 1, c'est 18,7. Donc, un déficit fiscal. Alors, ce n'est pas la vache à lait qui a longtemps été consacrée. La culture, c'est drôle à dire, mais rapporte plus. Ce n'est pas une raison pour bouder la Formule 1, mais disons que ce n'est pas le Saint Graal qu'on a longtemps cru. L'autre bémol, tu me vois venir, c'est un événement à haute teneur de proxénétisme et de machisme. C'est la vitrine de la prostitution et de la traite de personnes. On le sait que Montréal est la plaque tournante de la prostitution en Amérique du Nord et la Formule 1, ben c'est Noël pour ce milieu-là. On l'a vu, il y a eu des annonces dans des journaux, recrutement de mineurs sous prétexte de faire beaucoup d'argent, belle apparence. C'est un aspect glauque et sombre dont on ne parle pas assez, mais qui, à chaque année, brise des vies individuelles de jeunes filles, de jeunes femmes. Ça renforce le crime organisé, les gangs de rue. C'est la banalisation de l'exploitation sexuelle. On ne le dira jamais assez, mais il faut en parler lors de la Formule 1. Et puis, au moment où effectivement, on est en train de parler de tout ce qui va rouler sur la route de pays où ce qui va rouler en 2025, je pense à la Norvège, ne sera pas alimenté à l'énergie fossile. Au moment où la plupart des pays prennent des mesures à moyen terme où on manifeste pour des actions pour le climat, ben on va célébrer en fin de semaine dans le faste, dans l'insouciance et dans l'ostentation, une technologie, une énergie du siècle dernier, il faut bien le dire. Ce qu'on va célébrer, avec grand renfort de bruit, est déjà mort. La Formule 1 et son énergie, son orgie d'énergie fossile déployée avant, pendant et après la course, ben c'est la célébration d'un mode révolu. Les avancées technologiques dont on dit que chaque véhicule fournit des avancées technologiques pour les moteurs, ben c'est de la technologie du passé. Le progrès, c'est autre chose. Il est ailleurs. Alors, c'est même plus pathétique, c'est pathologique. Mais bon, c'est l'été, il fait beau, on a le droit de fêter. Bonne Formule 1, tout le monde.
Et je parierais que tu prends pour Ferrari.
Ça, c'est le petit côté chauvin italien.
Je savais.
Quand même. Donc, je pense que je vais regarder quand même le prix, mais il y a quand même des choses à dire. C'est pas juste la belle façade de party que ça veut se donner et que ça va se donner.
Voilà. Tout est dans la nuance.
Oui, exactement.
Alors, le premier ministre Justin Trudeau pleure souvent.
Mais oui.
Tu l'as qualifié de premier ministre
lacrymal. Oui, exactement. Voilà. L'occasion de ressortir ce beau mot-là. Il a encore pleuré il y a deux jours hier, il a pleuré lors des cérémonies de commémoration du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Au début, quand il est arrivé, on s'est dit « Wow, c'est vraiment le contraire de Stephen Harper. » Tu te souviens, Stephen Harper, il était fret, sans émotion, au point de serrer la main de son fils. Tu te souviens de cette photo-là?
Ben oui, avant de partir pour l'école.
Ben oui, écoute, c'est quelque chose. Fait que là, quand tu vois un nouveau premier ministre qui arrive et qui montre de l'émotivité, de la sensibilité, tu te dis « Hey, c'est frais, c'est nouveau. » Puis c'est vrai qu'il y a des situations où, en effet, que tu sois un homme ou une femme politique, tu as des émotions que tu ne peux pas contenir, ça le rapproche ou ça la rapproche de nous, ça l'humanise et nous, ça nous élève à son niveau. On a des émotions en commun. Après, c'est vrai qu'il a pas mal pleuré. Il a pleuré au discours aux Inuits pour parler de la gestion de la tuberculose dans l'Arctique par le gouvernement fédéral de 1940 à 1960. Il a pleuré en réaction à l'attaque de la mosquée de Québec devant des vétérans handicapés, pendant une visite d'un camp de concentration, devant des fonctionnaires canadiens membres de la communauté LGBTQ, quand son ami Gord Donnie, le chanteur de Tragically Hip, est décédé du cancer il y a quelques mois. Il a pleuré devant un réfugié syrien. Il a pleuré lors de la commission Vérité et réconciliation. Il a pleuré il y a quelques jours à peine lors du dépôt du rapport sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Et donc, je le disais, hier en Normandie. Il pleure comme Sophie, son épouse, chante. Il pleure spontanément.
Spontanément.
Mais oui, n'oublions, il y a un passé d'acteur quand même. Hein?
Oui, il y a ça.
Ça doit aider. Et c'est plus des larmes, Paul, c'est rendu une stratégie politique.
Ah, tu penses ça, toi?
Ben, Justin Trudeau, c'est quand même un leader faible. Il n'a pas énormément d'autorité. Alors, j'ai l'impression qu'il dissimule sa faiblesse sous des masques d'humanité, le masque de l'émotivité, de l'empathie. Il montre sa totale empathie en versant quelques larmes.
Donc, ce serait un premier ministre lacrymal crocodilien.
C'est toi qui le dis. Mais je te fournis quelques mots. Mais il y a aussi une ouverture envers l'autre, et ça se traduit par les déguisements qu'il adopte très, très souvent. Donc, ce sont ces deux vitesses principales, les pleurs et les déguisements. Alors, au Canada, on est connu pour l'abondance de nos ressources en eau. Ben voilà que maintenant, on a un premier ministre lacrymal d'un océan à l'autre.
Ben voilà. Mais à sa décharge, il n'est pas le seul politicien. Aux États-Unis aussi, il y en a quelques-uns.
Ben oui, tu me disais ça.
Oui, l'ancien leader de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner.
Oui.
D'ailleurs, il a fait preuve d'autodérision après sa carrière parce qu'il a donné une longue entrevue en s'expliquant pourquoi il pleurait pour tout et pour rien. Il dit, c'était pas des larmes de crocodile. Il dit, je suis d'une émotion à fleur de peau. Alors, dans la Chambre des représentants, ben, il entendait toutes sortes d'histoires et il partait à pleurer.
Ouais.
Chuck Schumer, le sénateur démocrate, même chose. Et là, évidemment, Donald Trump lui a asséné un coup de poing avec un surnom, Crying Chuck Schumer.
Ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est effectivement une stratégie politique quelque part. L'émotivité, la compassion, quand tu compares justement à des Stephen Harper de ce monde, c'est sûr qu'on est dans une société beaucoup plus émotive, où on fonctionne beaucoup à l'émotion, beaucoup au coup de sang, beaucoup au coup de cœur, et les larmes sont un des instruments. Je ne nie pas qu'il ait de vraies émotions. Mais ça le sert jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Et jusqu'à un certain point, là, tout le monde commence à se rendre compte qu'il pleure un petit peu trop souvent. Ça pourrait le desservir parce qu'il faut encore qu'il y ait du leadership derrière, qu'il y ait de la matière, qu'il y ait du contenu derrière. Et des fois, on a l'impression que M. Trudeau en manque un petit peu.
Alors, bon week-end et à lundi.
Hey, bonne Formule 1.
Oui, au revoir.
Bye.